Il est bon d'être dans ta présence. Il y a un rassasiement de joie dans ta présence, Seigneur. Il y a des délices éternels à ta droite. Oh, nos cœurs sont dans la joie devant toi, car tu as tant fait pour nous, Seigneur, et tu veux encore agir. Car comme le Père agit, le Fils agit encore, et le Saint-Esprit agit encore au milieu de nous, ce matin et pendant ces 2 jours ensemble. Oh, nous nous attendons à toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Merci parce que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Gloire te soit rendue, Seigneur, merveilleux Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Si nous sommes venus pour exalter et voir Jésus, certainement nous le verrons, car il est toujours prêt à se manifester lorsqu'on le recherche de tout son cœur. Nous voudrions voir Jésus. Que dès le départ, nos regards ne soient pas sur un homme, sinon vous serez déçus. Sur moi ou sur un autre, vous serez déçus. L'homme ne peut rien. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Attendons-nous à lui. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Alléluia. Il veut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Attendons-nous à lui. Il veut agir au milieu de nous. Nous allons nous attendre à ce qu'il agisse au milieu de nous. Et nous n'allons pas être étonnés de ce qu'il agisse. Il y a des gens qui sont étonnés quand Dieu agit. Quand certains voient un miracle dans une église, ils sont étonnés. Ils disent, mais comment ça se fait ça? C'est certainement pas... c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a eu un miracle, c'est pas normal. On est tellement habitué à ne rien voir que lorsqu'il se passe quelque chose, on est surpris. On dit, non, c'est bizarre. On devrait être étonné lorsqu'il ne se passe rien du tout, n'est-ce pas vrai? C'est lorsqu'il ne se passe rien qu'on devrait être étonné. Tiens, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Comment ça se fait? C'est pas normal. Alléluia. Quand nous lisons les évangiles, on voit Jésus sous 3 angles différents. On le voit soit en train de faire un miracle, soit en route pour aller faire un miracle, soit il vient de faire un miracle. N'est-ce pas vrai quand on lit cela? Et quand je parle de miracles, pas seulement des miracles physiques, oui, des miracles physiques, le Seigneur en fait, il veut en faire, il en fera certainement. Mais les miracles dans la Bible ne sont pas seulement limités aux miracles physiques. Il y a des miracles spirituels, il y a des miracles dans les cœurs de l'homme, dans les foyers. Et ce sont ces miracles que Dieu veut accomplir au milieu de nous. Ne limitons pas les miracles seulement au niveau du corps. Dieu veut faire des miracles dans tous les domaines et nous nous attendons à lui. Si vous vous attendez à lui, à quelque chose, il le fera. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Orvin pour une mission et il y avait une sœur qui était là. Elle a dit, elle a été réellement bénie, son visage était rayonnant. Elle me disait, combien de fois elle me l'a dit? Dieu voit la sincérité du cœur. Quand on le cherche, on trouve. Elle était venue pour être bénie. Elle avait dit à son mari, je ne peux pas retourner la même personne, c'est pas possible. Elle l'avait dit. Elle était malheureuse dans sa vie spirituelle. Elle avait dit à son mari, ce n'est pas possible, je vais là-bas pour qu'il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Elle est repartie transformée. Et je le remarque, nous le remarquons, lorsque nos cœurs sont réellement assoiffés, il se passe quelque chose. Le Seigneur donne toujours à boire à celui qui a soif. Alléluia. Ainsi attendons-nous à lui, et nous croyons qu'il ne nous décevra point. Ce matin est un peu une matinée d'introduction. Je vous avais préparé un bon plat de viande, mais je me suis dit, avant de servir la viande, il faut quand même un petit hors d'œuvre d'abord. Il faut commencer par le commencement. Comme beaucoup d'entre vous, vous avez voyagé, vous êtes un peu fatigué. Je ne veux donc pas être long. Et ce matin, d'ailleurs, le car viendra à 11h15. À 11h30, il faut qu'on soit dans le car pour être à 12h15 au plus tard au snack en ville. Je dis cela parce que nous devons manger le plus vite possible pour que nous ne perdons pas des heures là-bas, sinon on doit faire la queue pendant longtemps. Si bien qu'il faudra qu'on parte assez rapidement pour être ici assez rapidement aussi. Et cet après-midi, alors, vous aurez un bon plat de viande. Alléluia. Et nous nous laisserons conduire par le Seigneur. Nous nous attendons à lui. Que sa volonté se fasse et non la nôtre. Mais quand même, je vous ai dit, je vais vous donner un petit hors d'œuvre. Et cet hors d'œuvre, je ne l'avais pas préparé. C'était dans la chambre, là-bas derrière. Je dis, Seigneur, il me semble que ce n'est pas par la viande qu'il faut commencer. Et quelques pensées me sont venues. Je vais vous donner donc 5 pensées importantes sur le mariage, sur la famille. Comme nous parlons de la famille, n'est-ce pas? Les messages seront centrés sur la famille. Laissez-moi vous donner 5 pensées importantes sur la famille, sur la vie dans le couple. 5 vérités importantes que nous avons tous besoin de connaître. J'ai noté cette première vérité. Cette première vérité est celle-ci. Ce que vous êtes à la maison, c'est ce que vous êtes réellement. Voilà une vérité qui n'est pas toujours bonne à entendre. Je ne sais pas ce que c'est comme hors d'œuvre, ça. Ça, y a un peu de piquant là-dedans. C'est un peu pimenté, si on n'aime pas le piment, mais enfin, parfois, ça donne de l'appétit, le piment. Je répète, cette pensée très importante. Ce que vous êtes à la maison, c'est ce que vous êtes réellement. Cette pensée doit nous faire beaucoup réfléchir. Parce que, bien souvent, nous jugeons la qualité d'une personne, le succès d'une personne, pas toujours sur ce qu'elle est à la maison, mais par exemple sur sa vie professionnelle. C'est bien, je ne veux pas dire si quelqu'un a du succès dans sa vie professionnelle, c'est très bien. Qu'elle en a encore plus, c'est bien. Mais bien souvent nous disons, oh, cette personne, vous rendez compte, elle a une belle profession, elle a, dans son travail, elle fait un travail formidable, cette personne est vraiment, a une bonne réputation en dehors de la maison. Et on pense, ça, certainement, quelqu'un de bien, c'est certainement quelqu'un de bien. On se dit, ça y est, oui, c'est bien. Ça, c'est quelqu'un de spirituel, si c'est un chrétien. Mais détrompez-vous. Quelqu'un peut paraître très bien en dehors de la maison. Comme je le dis souvent, on peut être un ange en dehors de la maison et un petit démon à la maison. Car en dehors de la maison, bien souvent, pour paraître bien, nous avons tout un tas de masques dans notre sac ou dans notre serviette. Ah, il faut parler avec celui-ci. Bon, oh là, vite, vite, on ouvre la serviette, tel masque pour parler avec ce directeur-là. Non, il faut quand même que je paraisse bien, voyons. Ça se fait pas autrement, un beau masque. Et puis par derrière, c'est la grimace. Oui, très souvent, on voit ça. Hein. Un beau masque, et puis par derrière... Alors, nous pouvons facilement bien paraître en dehors, n'est-ce pas vrai? Écoutez, moi, je sais très bien ce que je dis, parce que bien souvent, j'essaye de faire ça aussi. Et il y en a qui se trompent, et qui pensent que peut-être Sam est quelqu'un de bien, formidable, mais c'est à la maison qu'il faut venir. C'est à ma petite femme qu'il faut demander ça. Aux enfants. Je veux dire qu'en dehors de la maison, nous faisons tout pour paraître bien. Mais c'est à la maison que nous voyons exactement qui vous êtes. Car à la maison, il n'y a plus de masque, n'est-ce pas vrai? Alors là, c'est le contact avec sa femme, ses enfants. Le Seigneur permet tout un tas de circonstances pour que vous sachiez véritablement qui vous êtes. Donc, une première bénédiction du foyer, c'est celle-ci, de nous révéler qui nous sommes. Un point important, ne nous faisons donc pas d'illusions sur ce que les autres pensent de nous en dehors de la maison. Parce que le succès est très relatif. En dehors de la maison, nous pouvons avoir du succès. Mais à l'intérieur de la maison, c'est toute une autre histoire. Le succès est très relatif. Et je crois que dans ce domaine-là, lorsque nous voyons la vie de famille sous cet angle-là, on a tous quelque chose à apprendre, à réapprendre, à corriger et à changer dans nos vies, n'est-ce pas vrai? Et si quelqu'un me dit ici qu'il n'a rien à changer dans sa vie, c'est un menteur, un point c'est tout. Personnellement, je sais que dans certains domaines, il y a des choses qui doivent changer. Je ne veux pas me faire d'illusions. Voilà donc une première pensée. Je vais vous donner quand même les autres pensées. La deuxième pensée est celle-ci. Le mariage lui-même n'est pas le problème. Mais le problème, ce sont les partenaires. C'est une pensée importante que l'on entend beaucoup dans ce monde aujourd'hui. On se dit, puisque c'est le fiasco à la maison, c'est que le mariage est une institution du passé. N'avez-vous pas entendu cela? Mais on l'entend du matin au soir. On dit, vous voyez bien, ça ne marche pas. Vous voyez bien, ça ne va pas. On s'aime bien, mais au bout d'un certain temps, ça ne va plus. Donc, le mariage est du passé. Comme pour dire, le mariage, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut changer maintenant. Et nous sommes en plein dans cela, n'est-ce pas vrai? Mais une vérité importante est celle-ci, c'est que le problème n'est pas dans le mariage lui-même, mais dans les partenaires. Ce n'est pas le mariage qu'il faut changer, ce n'est pas la famille qu'il faut changer, ce sont les partenaires eux-mêmes. N'est-ce pas vrai? Ceci est une pensée importante, parce que beaucoup disent, oh ben à quoi bon se marier? À quoi bon, finalement, vivre ensemble si nous pensons dans le fond de notre cœur que le mariage est quelque chose du passé? Non, le problème n'est pas dans le mariage. La famille qui est une institution divine, n'est-ce pas vrai? Et Dieu ne se trompe pas. Mais le problème est avec l'homme qui n'obéit pas aux règles que Dieu a données pour que le mariage soit béni et un succès. Donc, ne pensons jamais que le problème est avec le mariage, la famille elle-même, mais avec nous-mêmes. C'est nous qui devons changer et pas essayer de chercher une nouvelle forme de communauté, de famille. Il y a tant de choses qui commencent à se passer maintenant. Beaucoup de gens influents dans ce monde ont une seule pensée, doter la famille, l'esprit de famille, le mariage de ce monde, car ils disent que c'est la source de tous les problèmes. Je lisais encore l'autre jour, quelqu'un disait, le mariage tue l'amour. Le mariage ne tue pas l'amour, le mariage peut tuer la sexualité, mais pas l'amour. Parce que le monde bien souvent confond amour et sexualité, n'est-ce pas vrai? Le mariage n'a jamais tué l'amour, mais la sexualité, oui, quand nous sommes uniquement imprégnés de cette pensée du monde. Non, le mariage est une institution donnée par Dieu pour le bonheur de l'homme. Alléluia! Ce ne sont donc pas ces choses qui doivent changer, mais c'est l'homme lui-même. Et si nous changeons, nous découvrirons la beauté qu'il y a dans le mariage et dans la famille. Voyons une troisième pensée maintenant. Un bon père ou une bonne mère de famille est avant tout un bon chrétien. Je veux dire par là que si le chrétien ou la chrétienne vit normalement sa vie chrétienne, il ou elle sera automatiquement un bon père de famille et une bonne mère de famille. Ceci est une vérité aussi très très importante. bien souvent, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont de très mauvais pères de famille et très mauvaises mères de famille. Ceci veut dire que ce sont des mauvais chrétiens. Ah, mais on n'aurait pas la pensée de penser à cela. Mais c'est pas possible quand même. Pour qui vous me prenez? Si je ne suis pas un bon père de famille, je ne suis pas un bon chrétien. C'est vrai. Si tu es un bon chrétien, Galates chapitre 5, les versets sur les fruits de l'esprit, qui sont là, combien? 22. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Enfin, c'est nos versets. Voyez-vous, je ne les connais pas par cœur. Je pourrais les dire comme ça, mais un peu dans le désordre. Mais ceci pour dire que quand on est un bon chrétien, on manifeste en tout cas ses vertus. On va quand même les lire, hein? Il ne faut pas qu'on reste dans le vague. Allez, lisons. Galates 5, 22. Ce sont des passages que nous connaissons bien, mais qu'il est bon de relire maintenant. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Écoutez-moi bien, chers amis. Si un chrétien manifeste ses fruits de l'esprit, est-ce qu'il ne sera pas un bon père de famille ou une bonne mère de famille? Dites-moi. C'est une vérité qui coule de source. Autrement dit, s'il y a des problèmes dans notre vie conjugale, c'est que finalement, nous ne manifestons pas les fruits de l'esprit. Nous ne marchons pas réellement avec le Seigneur. Nous ne sommes pas de vrais disciples de Jésus. Le problème n'est pas avec la femme ou le mari. Voyez-vous, on est toujours là en train de dire, oui, mais l'autre, si elle comprenait ceci, elle ne me comprend pas, je ne la comprends pas. Et puis, on est toujours en train de se justifier, de condamner, de s'accuser, de se récuser. On ne sait plus où on en est. Mais nous ne voulons pas voir la vérité telle qu'elle est. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit sera toujours un homme qui sera un bon père de famille. Une femme remplie du Saint-Esprit sera une bonne mère de famille. Cette vérité est très importante. Parce que bien souvent, nous nous considérons même remplis du Saint-Esprit, mais en étant des petits démons à la maison. Pourquoi? Parce que nous justifions toutes nos mauvaises actions. Autrement dit, un bon père et une bonne mère, c'est avant tout un bon chrétien et une bonne chrétienne. Et si nous vivons tout simplement notre vie chrétienne, pas seulement en théorie, mais en pratique, alors nous changerons certainement à la maison, n'est-ce pas vrai? Mais si nous n'arrivons pas à régler nos problèmes à la maison, c'est avant tout un problème spirituel. Voyez-vous, les problèmes dans la famille sont avant tout des problèmes spirituels. Avant tout. Ah oui, mais c'est un problème d'incompatibilité. Quelle comptabilité? Ça à perdre son latin, j'allais dire. C'est un problème d'incompatibilité. C'est un problème de susceptibilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cela? Cela veut dire, finalement, que je ne veux pas reconnaître que mon problème est avant tout un problème spirituel. Si nous voyons les vérités dans la famille comme cela, alors nous commencerons à résoudre les problèmes à la source, à la base. Si j'ai tel problème, même dans un domaine moral, dans un domaine physique, est-ce là que se trouve réellement le problème? Si nous allons à la base, si nous allons au départ, nous verrons que c'est avant tout un problème spirituel. Il faut avoir l'humilité de l'accepter, n'est-ce pas vrai, chers amis? Et si nous l'acceptons, le Seigneur nous donnera toujours la sagesse nécessaire est l'humilité nécessaire pour accepter ce qu'il veut nous dire. Et en général, lorsque nous changeons, eh bien, l'Esprit de Dieu peut nous utiliser pour amener la bénédiction à notre conjoint. Alléluia. Ceci est une vérité très, très importante, car bien souvent, nous la négligeons et nous voyons des problèmes là où il n'y a pas de problème. Allons un peu plus loin. Une quatrième vérité dans la famille maintenant. Vous ne pouvez changer votre conjoint. Avez-vous bien entendu cela? Soulignez bien cela aussi, c'est très important. C'est une vérité aussi à savoir. Combien de jeunes femmes, par exemple, se marient, si le mari, par exemple, n'est pas, le fiancé n'est pas encore converti, combien de fois? C'est à coup sûr le même disque qui revient. Elle est convertie, lui, il n'est pas converti. Mais on lui dit, mais tu sais, ça ne va pas, tu vas avoir des histoires. S'il n'est pas converti, tu vas avoir des histoires avec son beau-père. Tu ne t'en sortiras pas. Oh, mais non, mais tu sais pas, mais moi, je vais bien le changer. Mais vous verrez bien que je changerai, mon petit chéri. Je vais bien le changer. Oui. Et dans la majorité des cas, quand une personne se marie comme cela, c'est elle qui, au bout d'un certain temps, a complètement changé et a abandonné la foi. C'est seulement dans un cas sur 100 qu'une chrétienne arrive à changer son, à amener son conjoint à la conversion. Un cas sur 100. Mais dans les autres cas, c'est le mari non chrétien qui entraîne l'autre. Tout cela parce qu'on s'est fait une illusion. Et quelle est cette illusion? On pense qu'on peut changer son conjoint. Vous ne pourrez jamais changer votre conjoint. C'est pourquoi n'essayez pas de le faire. Pourquoi toutes ces discussions? Pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi toutes ces paroles négatives? Parce que dans le fond du cœur, vous pensez pouvoir changer votre conjoint. Vous dites cela en vue de le changer. Mais quel est le résultat? En général, ça s'empire, n'est-ce pas vrai? À vouloir le changer, finalement, il y a toujours une réaction contraire. L'autre réagit, se bloque, et cela empêche littéralement le Saint-Esprit d'agir dans sa vie et dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Vous voulez faire quelque chose que seul le Saint-Esprit peut faire. Seul l'Esprit de Dieu peut changer quelqu'un. Et si nous voulons dire, « Oh Seigneur, à partir de maintenant, je réalise que je ne peux pas changer mon conjoint, mais que toi, tu peux le faire. Alors Seigneur, tu feras ce miracle. » J'avais lu cette histoire encore hier. C'était l'histoire d'une dame justement avec un mari inconverti. Pendant des années, elle a prié pour que le mari se convertisse. Pas de résultat. Elle priait, « Seigneur, convertis mon mari. » Pas de résultat. Et un jour, elle est allée voir un pasteur et elle a dit, « Pasteur, aidez-moi s'il vous plaît à prier avec moi pour que mon mari se convertisse. » Et le pasteur lui a dit ceci, écoutez bien, c'est très important. Il lui a dit, « Est-ce que vous, dans la conversion de votre mari, en priant pour la conversion de votre mari, vous le faites pour la gloire de Dieu. » Alors, elle a réfléchi, elle a dit, mais comment pour la gloire de Dieu? Est-ce que, en demandant la conversion de son mari, n'est-ce pas pour la gloire de Dieu? Le pasteur a dit, dites-moi exactement pourquoi vous demandez la conversion de votre mari. Dites-le-moi exactement. Elle a réfléchi un petit peu, elle a dit, mais je demande la conversion de mon mari pour qu'il soit plus gentil avec moi. Alors le pasteur a dit, vous ne demandez pas la conversion de votre mari pour la gloire de Dieu, c'est pour un intérêt personnel. Alors, après, quelle autre raison encore? Pourquoi vous demandez la conversion de votre mari? Je demande la conversion de mon mari parce que quand je vais à l'église, je suis seule et j'aimerais tellement que mon mari soit avec moi, qu'on me pointe pas toujours du doigt en disant « Voilà, elle est toujours seule. » Je voudrais qu'il se convertisse pour qu'il soit avec moi et que je... ma réputation soit plus luisante. Le pasteur lui a dit « Ah bon, vous demandez la conversion pour vous finalement, pour que votre réputation soit rehaussée. Vous ne demandez pas la conversion de votre mari pour la gloire de Dieu. Encore, pourquoi vous demandez la conversion ? Eh bien, pour qu'il soit gentil pour mes enfants et ses enfants, pour qu'il soit plus gentil. » Le pasteur lui a dit, « Vous ne demandez pas ça pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas étonnant, vous n'êtes pas exaucé. » Alors elle a finalement compris. Et elle a dit, « Oui, finalement, j'ai demandé la conversion de mon mari dans des buts égoïstes. » Elle a changé son fusil d'épaule, comme le pasteur lui disait, « Et maintenant, faites tout simplement cette prière. Seigneur, change mon mari, amène-le à la conversion pour ta seule gloire. » Pour qu'il soit tout simplement un enfant de Dieu. Je ne te demande rien pour moi, Seigneur, mais tout simplement pour qu'il soit en règle avec toi, parce que tu l'aimes. Et savez-vous ce qui s'est passé? 7 jours après, le mari était converti. Alors que sauf erreur, elle avait prié pendant 7 ans, sans résultat. Voyez-vous, ce n'est pas le tout de prier, de prier, de prier. Même pour son conjoint, on peut prier avec des motifs égoïstes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et je crois que le Seigneur exaucerait davantage de prières dans nos familles si nous prions pour la gloire de Dieu. Mais vous dites peut-être que mon mari ou ma femme est converti. Alors, comment dois-je prier? Eh bien, tu dois prier en demandant que Dieu agisse dans le cœur de ton mari ou de ta femme pour sa gloire. Pas pour qu'il soit plus gentil. Pas pour que cet opprobre qui est sur nous dans notre famille, tout le monde commence à savoir qu'on a des problèmes, alors il faut que ça change. Seigneur, je ne peux plus tenir. Ah, tu penses trop à toi, c'est à toi que tu penses finalement. Et voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Seigneur, je ne te demande plus rien pour moi. Je te demande la bénédiction de mon mari, de ma femme, mais pour ta seule gloire, pour son bien lui, Seigneur, rien pour moi. Et vous verrez le ciel ouvert. Et Dieu répand sa bénédiction plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Le croyez-vous? Ceci est très important. Tout pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint, mais vous pouvez prier et dire, Seigneur, toi, tu peux le faire. Mais attention, pas avec des motifs égoïstes, pour sa seule gloire. Et le Seigneur agira certainement. Amen. Une cinquième pensée maintenant, aussi très importante, dans le couple, dans la famille. Si vous voulez recevoir, vous devez d'abord apprendre à donner. Donnez et il vous sera donné. Voilà une autre vérité très importante dans la famille. C'est que bien souvent, il y a des problèmes. Parce que les deux conjoints sont en train de, excusez l'expression, de se sucer littéralement comme des sangsues. Il n'y en a pas un qui cherche à donner, ou alors on donne de temps en temps, une fois sur 100. Si vous voulez quelque chose de votre conjoint, vous devez d'abord le lui donner. Et ensuite, ce que vous donnez, il pourra vous le redonner. Si vous voulez de la patience, alors manifestez de la patience d'abord. Ne demandez pas de la patience. Soyez patient. Et en étant patient, alors le Seigneur pourra toucher son cœur et lui en retour pourra être patient à votre égard. Vous demandez de l'amour, mais avant de demander de l'amour, soyez aimable. Ne demandez pas quelque chose que vous ne donnez pas à votre conjoint. Si vous faites cela, pourquoi Dieu n'exauce pas? Parce que nous sommes des hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui exige quelque chose de l'autre sans le lui donner. On demande quelque chose de l'autre, mais en contrepartie, on ne veut rien donner. C'est une forme d'hypocrisie. que votre conjoint vous donne ce dont vous avez besoin, si vous, vous ne le donnez pas d'abord, vous exigez quelque chose qu'elle n'a pas ou que vous ne lui avez pas donné. Je crois que si ce principe était mis en pratique, il y aurait des révolutions dans les familles, vous ne croyez pas? Aller à la racine de beaucoup de divorces, de beaucoup de problèmes dans les foyers, c'est que l'un et l'autre ne cherchent qu'à recevoir. Ils ne cherchent qu'à recevoir. Alors, tu ne m'as pas dit bonjour aujourd'hui. Alors, tu ne m'as pas fait le baiser aujourd'hui. Alors, tu n'es pas gentil avec moi aujourd'hui. Et on est là en train de continuellement demander du conjoint. Et on n'a pas l'idée de réaliser que si nous voulons recevoir, nous devons d'abord apprendre à donner. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Voilà, que le Seigneur bénisse ces quelques paroles. Et je crois que ces quelques pensées peuvent bouleverser votre foyer. Mais avant de bouleverser votre foyer, il faut d'abord être bouleversé soi-même. Et en priant, dites ceci, « Seigneur, change ma famille, change mon conjoint, mais commence par moi. » Commence par moi. Seigneur, j'ai besoin de changer dans tel ou tel domaine, et une telle prière sera certainement exaucée. Seigneur, oui, il y a beaucoup de choses à changer dans ma famille, mais commence par moi. Me voici pour faire ta volonté. Si nous sommes disponibles, si nous sommes humbles, le Seigneur fera des miracles. Mais et si vous décidez de vivre non plus pour recevoir, mais pour donner à votre conjoint ou à vos enfants, alors le ciel s'ouvrira et le Seigneur vous donnera toujours ce dont vous avez besoin, même si votre conjoint ne peut pas vous le donner. Parce que bien souvent, on demande à son conjoint quelque chose qu'il ne peut pas donner, n'est-ce pas vrai? On fait de son conjoint sa source. Vous devez réaliser que l'homme est limité. Malgré toutes les bonnes qualités qu'il peut avoir, il est limité. C'est pourquoi nous devons avoir notre source en Dieu, premièrement. Merci Seigneur pour ce que le conjoint peut donner. Mais il ne peut pas donner, tout donner. Et ce qu'il ne peut pas donner, le Seigneur nous le donnera certainement. Alléluia. Parce que notre source, c'est le Seigneur et non le conjoint. C'est là le problème avec beaucoup de couples. Ils ont fait de leur conjoint leur source de joie, de paix. Et ils sont déçus, naturellement. Alors les premiers jours, ça va toujours bien, ou les premiers mois, ou les premières années, mais petit à petit, les choses se tassent. Et à un moment donné, nous réalisons que l'homme, si grand soit-il, si intelligent soit-il, si bon soit-il, à un moment donné, il y a des limites. L'homme est limité. L'amour de l'homme est limité. La sagesse de l'homme est limitée. La patience de l'homme est limitée. À un moment donné, il y a des limites. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur et vivre non plus pour recevoir, mais pour donner. Et en donnant, Dieu nous donnera toujours. Celui qui décide de donner aura toujours quelque chose à donner. Alléluia. Vous dites, mais je n'ai rien à donner, moi. Ce n'est pas vrai. Si tu décides de donner le peu que tu as, tu verras que Dieu te donnera encore davantage. Alléluia. Nous avons tous quelque chose à donner. Si nous voulons prendre la décision de le faire, le Seigneur ouvrira son ciel et son Saint-Esprit déversera dans nos cœurs ses dons merveilleux. Et nous serons étonnés et nous réaliserons que Seigneur, mais j'en ai tant à donner maintenant et il n'y en a pas assez dans la maison maintenant. Seigneur, envoie-moi quelqu'un d'autre pour que je puisse le bénir aussi. Alléluia. Et c'est ainsi que non seulement nous sommes une bénédiction pour la famille, mais aussi une bénédiction pour les autres. Gloire au Seigneur. Car le but de la famille n'est pas seulement d'être ensemble. Le but de la famille, c'est d'être heureux, c'est vrai, d'être épanoui, mais en vue d'être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Et c'est lorsque nous sommes remplis nous-mêmes que nous pouvons déborder sur les autres. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Méditons ces quelques pensées maintenant et obéissons à sa voix. Dites, Seigneur, c'est dur ce que tu m'as dit ce matin, mais je veux t'obéir. Ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on aime quelqu'un, eh bien, même s'il nous dit quelque chose qui est un peu dur, mais l'amour se fait avaler facilement les pilules. Ça aide, en tout cas l'amour fait aide à avaler les pilules, même amères. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Courbons-nous quelques instants dans la prière. Seigneur, nous te louons pour ton esprit de grâce, ton esprit qui veut restaurer, renouveler, guérir nos foyers. Et Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix, car tu veux nous transformer et nous rendre en bénédiction. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté et non la nôtre. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, je t'adore. Je t'adore ma vie. Je t'aime dans Jésus. Je t'adore. Je t'adore ma vie. Donnons nos vies, Seigneur, afin que tu les transformes à ton image et que nos foyers aussi soient transformés à ton image. Nous croyons que tu veux le faire et que tu vas le faire. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. La révélation de tes paroles nous éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Tes paroles ont fait l'allégresse de mon cœur. Alléluia, ton serviteur les aime. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un butin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole de vie que nous recevons dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Restons pendant toute cette retraite dans un esprit de prière, de recueillement, de louange et d'obéissance. Évitons toute discussion inutile. Nous sommes venus pour voir sa face. Nous sommes venus pour recevoir ses grâces. Nous sommes venus pour l'adorer. Ainsi, concentrons-nous entièrement sur lui et évitons tout ce qui pourrait lui déplaire et attrister le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Attendons-nous à lui. Il veut encore faire de grandes choses. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia.
Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressens. Rien d'autre ne